Palestine ici, Palestine là-bas. Bonsoir à tout le monde. Au micro ce soir, Mabrouk Lazreg, Comité Action Caladoi Solidarité. Donc aujourd'hui, comme à l'habitude, on parlera de Palestine, bien sûr, en général. Mais deux thèmes vont être quand même mis en évidence. Le premier, c'est celui qui a été le gros de l'actualité concernant la Palestine, qui est la proposition américaine qu'on appelle le deal du siècle, et que les Palestiniens appellent l'accord de la honte. Et la deuxième partie de notre émission portera sur la liste de l'ONU qui vient d'être dévoilée concernant les entreprises qui commercent dans les colonies illégales en Palestine occupée. Alain Dienard, ce soir avec nous, je te laisse te présenter.
Oui, bonsoir. Je suis un habitant de Vence. J'étais sympathisant du collectif Caladoi pour la Palestine et de tous les mouvements régionaux, qui notamment du collectif 69 pour la Palestine. Je suis allé deux fois. J'ai tenté deux fois d'aller en Palestine avec l'organisation CAPJPO Euro-Palestine. Une première fois, j'ai été arrêté à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Et puis une deuxième fois, j'ai tenté à nouveau d'y aller, mais par la Jordanie, et à nouveau empêché. Voilà.
Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer par parler de cette fameuse proposition américaine et israélienne concernant ce qu'on appelle ce deal du siècle. Alors, qu'est-ce que renferme ce deal du siècle? Si on peut déjà amorcer la discussion concernant cette proposition, d'accord. D'abord, c'est un projet qui, en 180 pages, on y trouve beaucoup d'aspects concernant la question palestinienne, et surtout des thèmes qu'on a l'habitude d'aborder en même temps dans cette émission, mais qui en même temps sont des thèmes généraux qui repartent de toute la chronologie de l'histoire de la Palestine. Alors, c'est les réfugiés, c'est la question de l'occupation, la question de la colonisation, la question de la sécurité. Donc il y a toutes ces choses qui vont être abordées suivant notre discussion et notre échange.
Mais bon, ce dont on a le plus parlé, bien sûr, c'est l'annexion par Israël de Jérusalem-Est, du Golan, de la vallée du Jourdain et de toutes les colonies israéliennes en Palestine occupée. Et tout ça est absolument contraire aux résolutions de l'ONU et donc contraire au droit international. Dans son plan, Trump a donné satisfaction à tous les caprices de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne, et a au contraire complètement maîtrisé les Palestiniens et leurs droits. Alors, il est, à mon avis, et à celui de Mabrouk également, il est indispensable de rappeler fermement à Trump et Netanyahou que le droit international doit être respecté. L'unilatéralisme et le suprématisme doivent être fermement combattus pour éviter les guerres. Sinon, sans justice, il n'y aura jamais de paix durable au Proche-Orient.
Alors, si on décortique un peu ce plan ou ce qu'ils appellent ce deal du siècle, il y a quand même quelques grandes lignes qu'il faut mettre en évidence et qu'il faut quand même déconstruire concernant cette proposition qui aujourd'hui est rejetée d'un revers de main par tout l'ensemble du peuple palestinien, et même par son autorité qui a souvent été conciliante, docile concernant les propositions qui étaient faites par les Américains et par les Israéliens. Donc on y trouve, entre autres, puisqu'en amont, quand même, cette proposition d'accord, elle vient en même temps, en sous-marin, en disant que tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été proposé auparavant n'a abouti à rien. Alors ils mettent en avant les 700 résolutions de l'Assemblée générale des ONU, des Nations Unies, les 100 résolutions du Conseil de sécurité, les accords d'Oslo qui ont laissé des questions un peu non résolues. Et entre autres, les frontières, la sécurité, les réfugiés, comme on l'a dit au début, et Jérusalem-Est. Donc, le plan de Trump, ou sa vision, elle va justement essayer de donner une autre approche, mais en même temps, qui en même temps ne donne plus un espoir aux Palestiniens, mais qui vient... avec tout ce mépris et toute cette arrogance, leur enlever encore plus de droits. Plus de droits. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus par rapport à...
Oui. Moi, je reprends d'ailleurs un récent article dans un numéro de Politis qui était rédigé à partir du travail de Khalil Tafakji, qui est, je dirais, un cartographe et un négociateur palestinien, donc qui s'est efforcé depuis 1983 de cartographier toutes les avancées, les grignotages d'Israël en Cisjordanie. Et donc, il a monté un service en se basant au départ sur des cartes du mandat britannique, hein, parce qu'il n'existait rien côté palestinien pour établir tout cela, pour établir tout ce grignotage. Et maintenant, il a fait un réel travail pour montrer l'extension incessante de la colonisation israélienne.
Alors, moi, ce que je lis devant ce que je lis devant moi, c'est concernant ce grignotage, comme tu dis, et cette nouvelle carte conceptuelle en guise de base pour les futures négociations. Et c'est pour répondre un peu à l'esprit de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et surtout traitant des territoires palestiniens précédemment détenus par l'Égypte et la Jordanie, mais accaparé par la force par Israël. Donc, dans cette nouvelle approche, ce qui est présenté dans cette proposition, elle montre un État palestinien presque entièrement enfermé par Israël pour répondre à ses exigences de sécurité. Donc, la notion de sécurité est vachement mise en avant. Et on est toujours là pour la protection d'Israël et non la protection de la Palestine et des Palestiniens. Mais dans cette proposition, Israël parviendrait toujours à maintenir le contrôle et la quasi-totalité des frontières palestiniennes. Mais on est quand même assez loin de ce qu'il y avait auparavant. Et quand on regarde aujourd'hui la carte, comme tu en as évoqué à l'instant les tenants et les aboutissants, c'est que aujourd'hui c'est plus qu'un gruyère. La partie qui reviendrait aux Palestiniens est diminuée, mais de fond en comble, comme on dit.
Oui. Parce qu'il faut savoir que il y a aujourd'hui à Jérusalem-Est et en Cisjordanie 730 000 colons israéliens qui occupent donc ces territoires, contrairement au droit international. Et donc c'est un nombre qui a été multiplié par 7 en 30 ans. Mmh. Donc tout cela, pendant qu'on négociait soi-disant les accords d'Oslo, etc., Israël ne cessait d'augmenter la colonisation. Mmh. Et maintenant, quand je parlais tout à l'heure de grignotage, maintenant, c'est commence à être à pleines dents quand même. Ouais.
Hein. Alors, comment cette carte va être dessinée? Et surtout, quand on parle de la nouvelle carte, il y a un moment donné, il va y avoir les transferts forcés de population. Et ce qui est proposé encore, c'est la création d'enclaves est relié par des projets de route. On parle de tunnels et de viaducs. Elle envisage aussi des transports à grande vitesse pour les Palestiniens. Mais ça ne signifie pas grand-chose. Car aucune infrastructure de ce type existe actuellement, même aux États-Unis. Donc Israël a déjà annoncé la couleur quand il dit qu'il annexerait déjà la bande le long de la frontière jordanienne, la vallée du Jourdain, ainsi que d'autres zones qui lui sont assignées par la carte, tout en suspendant toutes les activités de colonisation dans les zones bantoustan prévues pour les Palestiniens. Donc oui, ça encore, on y voit une
souveraineté.
Voilà, on est toujours dans la même logique.
La souveraineté palestinienne, entre guillemets, se limiterait à permettre aux Palestiniens de rentrer dormir dans leur maison le soir et d'aller à leur travail le matin, s'ils ont la chance d'en avoir, évidemment. C'est se soumettre en quelque sorte à une prison à ciel ouvert. Et la vallée du Jourdain, soit 27% de la Cisjordanie, serait dédiée exclusivement à l'agriculture israélienne. Ça, c'est quand même très très important. C'est la partie la plus fertile du territoire.
Du territoire, oui. Donc pour venir aussi à... Parce qu'il n'y a pas que cet aspect dans ce deal du siècle, ce que j'appellerais l'accord de la honte, c'est qu'il y a aussi la question de Jérusalem. Et on l'a vu dernièrement avec la position des États-Unis... par son représentant Donald Trump, où il avait, à travers cette provocation, le 15 mai 48, qui est quand même une date très très importante chez les Palestiniens, de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ça a été quand même un point très marquant, provocateur dans la façon de faire, mais en même temps dans ce projet. Tout est annoncé, tout est affiché en donnant la vision que Jérusalem serait la capitale israélienne indivisible.
Oui, oui.
Donc Jérusalem-Est, qui est annexée, qui aujourd'hui deviendrait la propriété, qui est déjà la propriété. Occupé, volé, on choisira les mots qu'on voudra. Mais dans ce projet, il n'est plus question de Jérusalem-Est,
bien sûr,
qui serait restituée, comme le soulignent les résolutions et les accords.
Bien sûr. Et Khalil Tafakji dit que d'ailleurs, dans le plan, ça serait un petit faubourg extérieur à Jérusalem qui s'appelle Abou Dis, qui serait... pourrait devenir la capitale de l'État israélien, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Enfin, tout ça est tout à fait inconcevable. En fait, c'est pour donner une image, c'est un peu comme si on déplaçait, par exemple, Paris à Neuilly et qu'on disait que ça devienne la capitale de la France. Tout le monde hurlerait et lèverait les bras au ciel. Et ben, c'est ce qu'on propose aux Palestiniens. Voilà.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que on leur propose des villes avoisinantes, comme y compris, on parle de la partie orientale de Shufa'at ou Abou Dis, comme tu viens de dire, et qu'on pourrait appeler, si vous le souhaitez, palestinien, Al-Quds. Mais voilà, c'est vraiment une moquerie ou à l'état pur, et que c'est prendre vraiment les Palestiniens pour des lapins de 3 semaines. Il y a cette question, et puis en même temps, il y a la question aussi des réfugiés. Puisque la question des réfugiés palestiniens qui vivent aujourd'hui à l'extérieur de leur demeure est quand même une question centrale, une des grandes revendications de ce peuple. Mais aujourd'hui, dans ce plan, ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc il n'est plus question de remettre ça sur la table, et il n'est plus question à ceux qui sont partis d'espérer un jour de revenir dans leur demeure. Donc... voilà, c'est encore un accord qui n'est pas un accord. En fait, c'est vraiment avoir une proposition avec un pistolet, j'avais envie de dire, avec un pistolet sur la tempe pour accepter toutes ces propositions qui sont encore injustes à l'égard du peuple palestinien. Une petite pause pour reprendre ensuite sur cet accord ou ce deal du siècle, comme on peut le nommer.
C'est une chanson pour tous les cœurs, les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir, d'espoir. Ya Allah est guéri. Ya Allah est guéri.
والروح عليك تغني والدمع تملى العين حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين والروح عليك تغني والدمع تملى العين حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين
d'espoir.
Palestine ici, Palestine là-bas. Donc ce soir, pour parler de ce qu'on appelle l'accord du siècle, proposition des États-Unis par son porte-parole Donald Trump. On a déjà abordé certains aspects de ce plan. On va continuer pour terminer justement sur cette question. Donc il y avait un aspect quand même qui concerne ce document. Qui concerne les incitations économiques pour les Palestiniens. Donc, dans la seconde moitié de ce rapport, il est exposé une proposition élaborée par le gendre et le conseiller, parce que c'est quand même lui qui a été pilote de ce projet. C'est le gendre du président américain, Jared Kushner, et qui avait en même temps été présenté au Bahreïn l'année dernière. Donc, cette présentation. envisage la manière dont les Palestiniens devraient structurer leur gouvernement. La société, l'économie, l'éducation, les soins de santé, etc. Un concept inédit de souveraineté, entièrement imposé et contrôlé depuis l'extérieur. Donc on voit encore une fois cette mainmise et cette ingérence à l'égard du peuple palestinien. En somme, ce plan promet aux Palestiniens 1 million de nouveaux emplois, des milliards de dollars d'investissement pour les sortir de la pauvreté, un pseudo-État qui pourront considérer comme le leur à condition. Et là, il y a quand même des conditions, qu'ils acceptent une forme particulière de souveraineté restreinte, démunie de tous les attributs régaliens de l'État, et entièrement subordonnée aux exigences sécuritaires et à l'ingérence israélienne. Qu'ils reconnaissent Israël comme État juif. Alors quand on dit Israël comme État juif, c'est quand même ce qui a été dénoncé par l'ensemble de la société palestinienne, mais en même temps par l'ensemble de la société civile, un État qui avait été nommé l'État-nation, un État juif, que pour les Juifs, et qu'ils abandonnent, pour revenir aux conditions, et qui demandent aux Palestiniens d'abandonner toutes leurs revendications sur les terres qu'ils détenaient. Qu'ils réorganisent l'ensemble de leur société sur le modèle d'une démocratie libérale occidentale. Encore, on y voit encore cette touche coloniale. Alors, voilà, l'Arkentrop et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont salué cette proposition comme étant l'accord du siècle, et qu'on appellera le deal du siècle. Toutes les factions palestiniennes dans leur ensemble, à l'unanimité, ont rejeté cette proposition et l'ont déjà entérinée.
Bien sûr, c'est parce qu'il n'est plus possible de parler d'un État palestinien dans ces conditions, quoi. Khalil Tafadji, dans son livre qui s'appelle « Chronique géographique de la colonisation israélienne » qui a été publié à La Découverte récemment, un livre de 256 pages, et dit que, en fait, tout le haut des collines est occupé par les Israéliens, et puis ensuite il y a des enclaves, il y a des tunnels pour relier les villages palestiniens qui resteraient entre eux, quoi. Donc c'est complètement déséquilibré comme système. Donc voilà, ça ne peut pas constituer un État viable, ou alors c'est un État de seconde zone, comme le seraient tous les Arabes israéliens, puisque Israël étant constitué en État juif, tous ceux qui ne sont pas juifs ne sont pas des citoyens de pleine citoyenneté.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment un traitement discriminant. Pourquoi qu'on dit aujourd'hui il y a un apartheid en Israël ? Et pour revenir à la question de cette solution à deux États qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, qui est carrément plus tenable, et tous ceux qui étaient dans cette configuration et qui espéraient avoir deux États côte à côte, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc aujourd'hui il y a d'autres gismes dans lesquels les Palestiniens doivent s'inscrire et continuent à s'inscrire, c'est les grandes revendications. L'arrêt de la colonisation, avec l'arrêt de l'occupation, la levée du blocus de Gaza, le sort des prisonniers palestiniens, on estime à des centaines de milliers, la libération justement de ces prisonniers palestiniens, l'égalité dans les droits, et ça, ce serait monumental. En termes de revendications, comme tu l'as dit, de citoyenneté, et la question qui a été soulevée à travers les aspects de cette proposition américaine, c'est le retour des réfugiés. Je pense que c'est sur ces revendications où justement le peuple palestinien doit s'appuyer pour faire en sorte qu'on retrouve un rééquilibrage concernant ce qui se passe aujourd'hui dans cette région.
Voilà. Donc, oui, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire à ce stade sur cet accord, enfin, ce plan Netanyahou-Trump.
Et qui n'a pas fait, on le dit, qui n'a pas fait l'unanimité dans les chancelleries occidentales et rejeté d'un revers de main par l'ensemble du Moyen-Orient et du Proche-Orient, en tout cas par les peuples. Alors, on a quelques exceptions qui ont bien voulu s'aligner sur cette proposition, et pour citer, alors c'est pas les peuples, hein, c'est bien vraiment leurs dirigeants, l'Égypte, on cite les Émirats arabes, le Bahreïn, mais encore une fois, il faut bien dissocier la position des gouvernants et des peuples.
Et des peuples.
L'ensemble des peuples, dans sa majorité et à l'unanimité, ils ont rejeté son plan. Et même, comme on disait, beaucoup de chancelleries occidentales ne sont pas d'accord avec cette proposition. On va passer à un deuxième thème, même s'il nous reste un peu de temps. C'est concernant qui est une victoire pour l'ensemble de la société civile. C'est concernant cette liste qui a été établie par l'ONU des entreprises qui collaborent avec Israël dans les territoires occupés.
Qui sont implantés dans les territoires
qui sont occupés. Implantés dans les territoires, merci de la correction, qui sont implantés dans les territoires occupés. C'est une liste quand même qui était attendue depuis de nombreuses années par les membres de la société civile et en même temps par les acteurs de la solidarité avec la Palestine. Elle a été établie, on en compte un peu plus d'une centaine. La liste n'est pas complète, puisqu'on n'y trouve pas des entreprises qu'on connaît aujourd'hui leur collaboration avec l'État hébreu. Mais ça reste une victoire qu'il faut saluer et en même temps qu'il faut justement continuer à dénoncer et qui reste quand même un outil pour ceux qui s'inscrivent dans la campagne du boycott et qui aujourd'hui font un travail envers les entreprises. Alors je cite un peu aujourd'hui... AXA, Puma, hier c'était Orange, il y avait quoi ? Il y avait encore d'autres entreprises, et qu'il faut justement continuer dans ce sens-là pour dénoncer ces grandes entreprises.
Voilà, et on peut dire que l'intérêt, c'est justement que ça fait hurler Netanyahou.
Ça fait, ouais. Et
puis, donc, ouais. Ça montre bien que ça peut avoir... Enfin, il a peur que ce soit un impact et que ce soit un véhicule, en fait, un prétexte pour accélérer la stratégie du boycott, du désinvestissement et des sanctions. Mmh. Voilà, et ça ternit quand même l'image israélienne. Voilà, c'est ça qui les fait hurler. Et donc... Et c'est ce que, personnellement, nous trouvons intéressant.
Et c'est bien parce que, ouais, comme je disais, ça a été salué. Donc, voilà, il nous reste quelques secondes pour remercier Mathieu pour l'encadrement de cette émission. Et puis, je te remercie, Alain, d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, nos auditeurs, une fois par mois, on est là pour parler un peu de l'actualité de la Palestine, ici, là-bas, et puis en même temps, tout ce qui traite de cette question. Des bonnes nouvelles, puis des mauvaises nouvelles, parce qu'on est obligé de vous informer, et on continuera à vous informer. C'était Palestine ici, Palestine là-bas, avec Alain Lénard et Mabrouk Lazareg au micro.